Chapitre 29. Sol Weintraub avait bon espoir la nuit où le consul était parti. Enfin, ils faisaient quelque chose. Ou du moins, ils essayaient. Ils ne croyaient pas vraiment que les compartiments cryotechniques du vaisseau du consul fussent la réponse au problème de Rachel. Les experts du vecteur Renaissance avaient signalé les dangers d'une telle procédure. Mais il était bon de posséder une solution de rechange, n'importe laquelle. Sol se disait qu'ils étaient restés trop longtemps passifs à attendre le bon plaisir du Gritch, comme des condamnés promis à la guillotine. L'intérieur du sphinx lui paraissait trop insidieux ce soir. Sol sortit leurs affaires dans l'entrée de granit, où Duré et lui s'efforcèrent d'installer Mastin et Brown dans une position confortable, avec des capes et des couvertures pour protection, et des paquetages en guise d'oreiller. Les écrans de surveillance médicale n'indiquaient toujours aucune activité cérébrale chez Brown, tandis qu'elle semblait dormir paisiblement. Quant à Mastin, il ne cessait de s'agiter et de se retourner comme s'il était en proie à la fièvre. « Quel est le problème du Templier, à votre avis ?» demanda Duré. « Vous croyez qu'il est tombé malade ?»« C'est possible, » répondit Sol. « Les choses n'ont pas dû être faciles pour lui. » Après avoir été obligé de quitter le chariot avant, je suppose qu'il s'est retrouvé errant dans ces territoires désolés, exposé aux intempéries de la vallée des tombeaux du temps, sans nourriture, obligé d'absorber de la neige pour toute boisson. Duré hocha la tête. Il vérifia le médipack de la force qu'ils avaient installé au creux du bras du Templier. Les voyants indiquaient que la solution intraveineuse s'écoulait normalement par le goutte à goutte. « Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose, » fit le jésuite, « quelque chose comme de la folie. » Les Templiers sont en relation presque empathique avec leur vaisseau-arbre. Notre ami, la voix de l'arbre authentique, a dû perdre un peu la raison lorsqu'il a assisté à la destruction de son Yggdrasil, particulièrement s'il savait d'avance que cette destruction était inéluctable et nécessaire. Duré hocha la tête tout en continuant d'éponger le front cireux de Het Mastin. Il était minuit passé et le vent s'était levé, soulevant une poussière vermillon en lent tourbillon paresseux et gémissant au contact des arêtes et des arrondis des ailes du sphinx. Les tombeaux émettaient des lueurs tantôt fortes, tantôt faibles, l'un après l'autre, sans cohérence apparente. De temps à autre, les marées du temps assaillaient les deux hommes, les faisant halter et s'agripper à la paroi de pierre. Mais cette sensation de vertige et de déjà-vu disparaissait au bout d'un moment. Avec Brand Lamia, attachée comme elle l'était au sphinx, par le câble serpentiforme soudé à son crâne, il ne pouvait pas s'éloigner. Peu avant l'aube, les nuages se dissipèrent et le ciel redevint visible. Les étoiles agglutinées brillaient d'une clarté presque pénible. Durant un bon moment, les seuls signes de la bataille entre les deux grandes flottes spatiales furent d'occasionnelles traînées de fusion, comme des rayures sur les carreaux de la nuit. Puis les corolles d'explosions lointaines se déployèrent de nouveau, et l'éclat des tombeaux, au bout d'une heure, se trouva éclipsé par la violence qui se déchaînait là-haut. « Qui va gagner, à votre avis ?» demanda le père Duré. Les deux hommes étaient assis, adossés à la paroi de pierre, le visage levé vers le morceau de ciel visible entre les ailes recourbées en avant du sphinx. Sol caressait doucement le dos de Rachel qui dormait à plat ventre, le derrière en saillie sous les fines couvertures. D'après ce que disaient les autres, il semble inévitable que le Retz essuie de terribles revers dans cette guerre. Vous faites donc confiance aux prévisions de l'Assemblée consultative des IA ? Sol haussa les épaules dans l'obscurité. Je ne connais rien à la politique. J'ignore le degré réel de précision des prévisions du technocentre. Je ne suis qu'un modeste universitaire venu d'une obscure faculté d'un monde provincial. Mais j'ai le sentiment que quelque chose de terrible nous attend. Que quelques bêtes brutales s'avancent lourdement pour naître à Bethléem. Duré eut un sourire qui disparut aussitôt. « Yitz, » murmura-t-il. « Oui, vous avez raison. » Je suppose que cet endroit est la nouvelle Bethléem. Il laissa errer son regard vers le bas de la vallée, où se trouvaient les tombeaux luminescents. J'ai passé toute ma vie à enseigner les théories de Saint-Héliard sur l'évolution vers le point Oméga, reprit-il, Et voilà ce que nous avons à la place. Un déchaînement de folie humaine dans les cieux et un monstrueux antéchrist qui attend d'hériter des ruines. Vous considérez le Gritch comme l'antéchrist ? Le père Duré posa les coudes sur ses genoux ramenés contre sa poitrine et appuya ses mains pliées l'une contre l'autre. Si ce n'est pas l'antéchrist, nous sommes tous dans de sales draps, répondit-il avec un petit rire amer. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais été ravi de découvrir un antéchrist. La présence de n'importe quelle puissance antidivine aurait pu servir à raviver ma foi défaillante en une forme quelconque de divinité. Et aujourd'hui ? Demanda tranquillement Sol. Duré écarta les mains. Aujourd'hui, j'ai été crucifié, moi aussi. Des images du récit de Lennart Hoyt surgirent dans l'esprit de Sol. Il vit le jésuite se clouant les mains et les chevilles à un arbre de Tesla, endurant des années de souffrance dans la mort et la résurrection plutôt que de s'abandonner au parasite cruciforme qui, encore maintenant, était incrusté dans la chair de sa poitrine. Je n'ai perçu aucun signe de bienvenue de la part d'un père bienveillant, continua Duré d'une voix faible. Aucune assurance ne m'a été donnée sur l'utilité de mes souffrances et de mon sacrifice. Je n'ai eu droit qu'à la douleur et aux ténèbres. Aux ténèbres et à la douleur. Les mains de Sol cessèrent de caresser le dos du bébé. « Et cela vous a fait perdre la foi ? » demanda-t-il. « Bien au contraire, » répliqua Duré en le regardant dans les yeux. Cela m'a fait prendre conscience de ce que la foi est essentielle. La douleur et les ténèbres ont été notre lot quotidien depuis la chute de l'homme. Mais il faut que nous conservions l'espoir d'accéder à un niveau supérieur de conscience, d'évoluer jusqu'à un plan plus favorable que cet univers tissé d'indifférence. Sol hocha lentement la tête. J'ai fait un rêve pendant la longue bataille de Rachel avec la maladie de Merlin. Ma femme, Sarai, a fait à peu près le même rêve. On me demandait de donner ma fille unique en sacrifice. Je suis au courant, fit Duré. J'ai écouté les commentaires du consul sur son père Soc. Vous savez donc quelle a été ma réponse. Tout d'abord, le chemin d'obéissance d'Abraham ne peut plus être suivi, même s'il y a un Dieu pour exiger une telle obéissance. Ensuite, nous avons offert des sacrifices à ce Dieu pendant trop de générations. Nos paiements de douleur et de tourments doivent cesser. Et pourtant, vous êtes ici, fit observer Duré avec un geste large qui embrassait la vallée, les tombeaux et la nuit. C'est vrai, je suis ici, reconnut Sol. Mais pas pour m'aplatir devant qui que ce soit. Plutôt pour voir quelle est la réponse que ces puissances adoptent face à ma décision. Il posa de nouveau la main sur le dos de sa fille. Rachel n'a plus qu'un jour et demi à présent. Chaque seconde la rapproche du moment de sa naissance. Si le Gritch est l'auteur de cet acte de cruauté, je veux le rencontrer face à face, même s'il est l'antéchrist dont vous parlez. Et si Dieu existe, si c'est lui qui a fait cela, je lui manifesterai le même mépris. Notre problème, c'est peut-être que nous avons déjà manifesté trop de mépris, fit Duré d'une voix songeuse. Sol leva les yeux vers le ciel, au moment où une douzaine de points lumineux explosaient en ondes de plasma concentriques dans l'espace lointain. J'aurais aimé que notre formidable technologie nous permît de nous battre à armes égales contre Dieu, murmura-t-il d'une voix faible mais tendue. De l'affronter dans son antre, de lui rendre coup pour coup les injustices dont il n'a cessé d'accabler l'humanité, de le faire renoncer à son arrogance ou de l'envoyer paître en enfer. Le père Duré haussa un sourcil et esquissa un sourire. « Je comprends cette colère que vous ressentez, » dit-il en touchant doucement la tête de Rachel. Essayons de dormir un peu avant le lever du soleil, si vous voulez. » Sol acquiesça d'un mouvement de tête, s'étendit aux côtés de l'enfant et remonta la couverture jusqu'à ses yeux. Il entendit le père Duré murmurer ce qui était peut-être un bonsoir, peut-être une prière. Sol effleura le dos de sa fille, ferma les yeux, et s'endormit aussitôt. Le Gritch ne vint pas cette nuit-là. Il ne vint pas non plus le lendemain matin, lorsque la lumière du soleil coloria les falaises au sud-ouest et toucha le sommet du monolithe de cristal. Sol se réveilla au moment où les premières lueurs se glissaient dans la vallée. Duré dormait encore. Mastine et Brown étaient toujours sans connaissance. Rachel gigotait de tous ses membres. Son cri était celui d'un nouveau-né affamé. Sol sortit de son sac l'un des derniers biberons. Il tira la languette auto-chauffante, attendit un instant que le lait monte à la température du corps. Le froid s'était installé pendant la nuit dans la vallée. Les marches du sphinx étaient givrées. Rachel prit gloutonnement son lait, avec les mêmes bruits de succion et les mêmes couinements que 50 ans plus tôt, quand Sarai lui donnait le sein. Lorsqu'elle eut fini, Sol lui fit faire son rau et la laissa sur son épaule en la balançant doucement. Il ne lui restait plus qu'un jour et demi. Sol était extrêmement las. Il se faisait vieux malgré l'unique traitement Poulsen qu'il avait subi 10 ans plus tôt. À l'époque même où Sarai et lui auraient normalement dû être libérés de leurs devoirs parentaux, leur fille unique étant à l'université puis en voyage de recherche archéologique sur une planète des confins, Rachel avait contracté la maladie de Merlin et les devoirs parentaux leur étaient retombés dessus de plus belle. La charge avait été d'autant plus lourde que Sarai et lui avaient vieilli. Puis il était demeuré seul après l'accident aérien sur le monde de Barnard, et il se sentait là, très là. Malgré tout, il ne regrettait pas un seul instant d'avoir eu à s'occuper ainsi de Rachel. Plus qu'un jour et demi. Le père Duret se réveilla au bout d'un moment et les deux hommes préparèrent un petit déjeuner à base de différents ingrédients en conserve que Brown avait ramenés de la forteresse. Et Mastin n'avait pas repris conscience, mais le jésuite mit en place l'avant-dernier Medipack et le templier commença bientôt à recevoir des fluides nourriciers intraveineux. « Vous croyez que je devrais donner le dernier Medipack à Brown Lamia ?» demanda Duret. En soupirant, Sol consulta, une fois de plus, les écrans du Persoc. « Je pense que c'est inutile, Paul, » répondit-il. « D'après ses indications, son taux de sucre est élevé et son sang est aussi riche en substances nutritives que si elle venait de faire un bon repas. » « Mais comment ?» Sol secoua la tête. « Ce fichu truc joue peut-être le rôle de cordon ombilical » dit-il en désignant le câble qui entrait dans son crâne à l'endroit où se trouvait la dérivation neurale. « Que fait-on aujourd'hui ?» demanda le père Duret. Sol leva les yeux vers le ciel qui prenait déjà les couleurs d'un dôme vert et lapis auquel Hyperion les avait habitués. « Nous attendons, » répondit-il. Et Mastin reprit connaissance au moment le plus chaud de la journée, peu avant que le soleil fût au zénith. Il se redressa subitement en criant « L'arbre !» Duret, qui se trouvait sur les marches du sphinx, accourut aussitôt. Sol prit Rachel, qui dormait à l'ombre contre le mur, et s'avança jusqu'au templier. Les yeux de ce dernier étaient fixés sur un point au-dessus des falaises. Sol suivit son regard, mais ne distingua qu'un coin de ciel pâle.
« L'arbre !»
s'écria de nouveau Mastin en levant une main calleuse. Duret lui soutint les épaules.
« Il délire, » dit-il. « Il croit qu'il voit l'Yggdrasil, son vaisseau arbre. »
Et Mastin se débattit pour dégager ses épaules.
« Non, pas l'Yggdrasil !»
haleta-t'il à travers ses lèvres sèches.
« L'arbre ! L'arbre ultime ! L'arbre de la douleur !»
Les deux hommes levèrent de nouveau les yeux, mais le ciel était vide, à l'exception des nuages effilochés poussés par la brise venue du sud-ouest. À ce moment-là, il y eut une soudaine recrudescence des marées du temps et ils baissèrent tous les deux la tête, pris d'un soudain vertige. Mais cela passa rapidement. Et Mastin essayait de se mettre debout. Les yeux du Templier étaient toujours fixés sur un point lointain. Sa peau était si chaude qu'elle brûlait les mains de Sol.
« Allez chercher le Medipack qui nous reste !»
demanda vivement ce dernier.
« Programmez-le pour qu'il lui perfuse l'ultramorphine et le fébrifuge !»
Duret s'empressa d'obéir.
« L'arbre de la douleur !»
réussit à murmurer Et Mastin.
je devais lui servir de voix. L'ergue devait le propulser à travers le temps et l'espace. L'évêque et la voix du grand arbre m'ont choisi. Je ne peux pas leur faire défaut. »
Il se débattit encore quelques secondes contre les bras de Sol qui l'immobilisaient, puis retomba en arrière contre le mur de pierre.
« Je suis l'élu authentique, »
murmura-t-il tandis que l'énergie le quittait comme l'air qui s'échappe d'un ballon de baudruche.
« C'est moi qui dois guider l'arbre de la douleur pendant la période de l'expiation. »
Il referma les yeux. Durée mit en place le Medipack, réglé en fonction des particularités du métabolisme du Templier. Tandis que l'adrénaline et les antalgiques faisaient leur œuvre, Sol se pencha plus près de Mastine.
« Ce n'est pas la terminologie habituelle des Templiers, » lui fit remarquer le père Duré.
« Il utilise le langage du culte Grichtek. Cela explique un certain nombre de mystères, » ajouta-t-il tandis que Sol se tournait vers lui. « En particulier, cela éclaire certains points du récit de Brown Lamia. Pour une raison qui m'échappe, les Templiers se sont entendus avec l'Église de l'expiation finale, le culte Grichtek. » Sol hocha lentement la tête. Passant son propre persoc autour du poignet de Mastine, il ajusta l'écran. « Cet arbre de la douleur est certainement le fameux arbre aux épines du Gritch. » continua Duré en levant de nouveau la tête vers le coin de ciel vide qu'avait regardé Mastine. « Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit que l'ergue et lui ont été désignés pour le propulser à travers l'espace et le temps. Croit-il vraiment pouvoir piloter l'arbre du Gritch comme un templier pilote un vaisseau-arbre? Et pour quelle raison ferait-il cela ?«
Si vous voulez connaître la réponse, » lui dit Sol d'une voix épuisée, « il vous faudra attendre de le rencontrer dans l'autre monde. Il vient de mourir. »
Duré vérifia les écrans, ajouta au circuit le persoc de Lennart Hoyt, essaya tous les stimulants du Medipack, le choc cardio-pulmonaire, le bouche-à-bouche. Rien n'y fit. Les aiguilles des cadrans ne bougèrent pas d'un millimètre. Le Templier Het Mastine, pèlerin Grichtek et voix de l'arbre authentique, était mort, et bien mort. Ils attendirent une heure, ne faisant confiance à rien dans cette perverse vallée Grichtek. Mais lorsque les moniteurs commencèrent à annoncer la rapide décomposition du corps, ils donnèrent à Mastine une sépulture sommaire, à une cinquantaine de mètres de là, près du sentier, en direction de l'entrée de la vallée. Kassad avait laissé derrière lui une bêche pliante, dénommée « outil de tranchée » dans le jargon de la force. Et les deux hommes se relayèrent pour creuser tout en surveillant tour à tour Rachel et Brown Lamia. Tandis que Sol tenait son enfant dans ses bras à l'ombre d'un gros rocher, Duré prononça quelques mots avant de recouvrir de terre le linceul improvisé en fibroplaste.
« Je n'ai pas vraiment connu Het Mastine. Et nous n'appartenions pas à la même religion. Mais notre profession était la même. La voix de l'arbre Mastine a passé une grande partie de sa vie à répandre ce qu'il pensait être la parole de Dieu et à accomplir la volonté divine à travers les écrits du Muir et les beautés de la nature. Sa foi était authentique, testée par les épreuves, tempérée par l'obéissance et scellée, finalement, par le sacrifice. »
Il s'interrompit pour regarder le ciel qui avait pris un éclat métallique bleuté.
« Accepte ton serviteur en ton sein, ô Seigneur. Reçois-le dans tes bras, comme tu nous recevras tous un jour, nous qui te cherchons, mais avons perdu notre chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »
Rachel se mit soudain à pleurer. Sol fit les 100 pas en la berçant, tandis que Duré pelletait la terre sur le linceul de fibroplaste à forme humaine. Ils retournèrent au sphinx. Ils déplacèrent Brown dans le seul coin d'ombre qui restait. Ils n'avaient aucun moyen de l'abriter du soleil de fin d'après-midi, à moins de la transporter à l'intérieur du tombeau, et aucun des deux hommes ne tenait à faire cela.
« Le consul a dû faire la moitié du voyage à l'heure qu'il est, »
murmura le prêtre après avoir bu longuement à sa gourde. Il avait le front tanné par le soleil et recouvert d'une pellicule de transpiration.
« Je le pense aussi, » dit Sol. « Il devrait être de retour ici demain à la même heure. Nous utiliserons les bistouris laser pour libérer Brown, puis nous laisserons l'infirmerie de bord s'occuper d'elle. Quant à Rachel, j'espère que les caissons cryotechniques arrêteront son vieillissement, malgré ce que disent les médecins. Je l'espère aussi. » fit Sol.
Le père Duré remit la gourde en place et se tourna vers l'érudit.
« Vous croyez que c'est ainsi que les choses vont se passer ?»«
Non, » fit Sol en lui rendant tranquillement son regard. Les ombres s'étiraient à partir des falaises du sud-ouest. Toute la chaleur du jour semblait s'être solidifiée avant de se dissiper peu à peu. Des nuages noirs arrivaient du sud. Rachel dormait à l'ombre de l'entrée du sphinx. Sol la laissa quelques instants pour se rapprocher de l'endroit où Paul Duré était en train de contempler la vallée. Posant une main sur l'épaule du prêtre, il demanda
« À quoi pensez-vous, mon ami ?»
Sans se retourner, le prêtre répondit
« Je pense que si je n'étais pas sincèrement convaincu que le suicide est un péché mortel, je m'effacerais pour donner au jeune Hoyt une nouvelle chance de vivre. »
Il se tourna alors vers Sol avec un faible sourire.
« Mais peut-on vraiment parler de suicide, sachant que ce parasite incrusté dans ma poitrine, comme il l'était précédemment dans la sienne, finirait de toute manière par me ressusciter un jour à mon corps défendant ?»«
Je ne sais pas si ce serait un cadeau à faire à Hoyt, » déclara Sol d'une voix tranquille. Duré ne répondit pas pendant quelques instants. Puis il mit la main sur l'épaule de Sol.
« Je vais faire un petit tour, » dit-il.
« Où ça ?» demanda Sol. Il plissa les yeux dans la suffocante chaleur du désert. Malgré les nuages qui couvraient une partie du ciel, la vallée était un véritable four.
« Par là, » fit le prêtre avec un geste vague en direction de l'entrée de la vallée. « Je ne serai pas long. Soyez prudent. » lui recommanda Sol. Et n'oubliez pas que si le consul a trouvé un glisseur en arrivant au fleuve, il pourrait être de retour dès cet après-midi.
Duré hocha la tête. Il alla prendre une gourde, caressa délicatement la tête de Rachel, et descendit le grand escalier du sphinx en avançant à petits pas, comme un vieillard chargé d'années. Sol le regarda s'éloigner. Il ne fut bientôt plus qu'une minuscule silhouette déformée par le miroitement de l'air et par la distance. Puis l'érudit retourna en soupirant s'asseoir à côté de sa fille. Paul Duré s'efforçait de marcher à l'ombre, mais même ainsi la chaleur était oppressante et pesait comme un joug sur ses épaules. Il dépassa le tombeau de jade et suivit le sentier qui menait aux falaises du nord et à l'obélisque. L'ombre effilée de ce monument projetait du noir sur la pierre rosée et sur la poussière de la vallée. Il descendait lentement au milieu des décombres entourant le monolithe de cristal. Il leva les yeux tandis qu'une brise paresseuse faisait teinter les carreaux cassés et siffler à travers les fissures de la façade. Il vit son reflet dans les morceaux de verre intacts et se souvint du chant d'orgue produit par le vent du soir dans la faille, lorsqu'il vivait parmi les bicuras. Sur les hauteurs du plateau du Pignon. Il lui semblait que plusieurs vies s'étaient écoulées depuis. Plusieurs éternités. Il ressentait les dommages que la résurrection du cruciforme avait opérés sur sa mémoire et dans son esprit. C'était un sentiment écœurant. L'équivalent de quelqu'un qui a été victime d'une attaque cardiaque et qui n'a aucun espoir de guérir. Des raisonnements qui auraient autrefois été pour lui un jeu d'enfant lui demandait maintenant une profonde concentration, ou était simplement hors de sa portée. Les mots lui échappaient. Les émotions l'empoignaient avec la même violence soudaine que les marées du temps. Plusieurs fois, il avait dû s'éloigner des autres pèlerins pour pleurer tout seul, sans motif intelligible. Les autres pèlerins. Aujourd'hui, seul demeurait Weintraub et l'enfant. Le père Duré aurait volontiers donné sa vie pour que ces deux êtres fussent épargnés. Était-ce un péché, se demandait-il, que d'envisager un pacte avec l'Antéchrist ? Il s'était enfoncé dans la vallée presque jusqu'au point où elle s'incurvait vers l'est pour former le cul-de-sac où le palais du Gritch projetait son labyrinthe d'ombre sur les rochers. La piste passait non loin de sa façade nord-ouest avant d'aboutir aux trois caveaux. Durée sentit l'air froid qui sortait du premier tombeau, et il fut tenté d'y entrer pour s'offrir un bref répit contre la chaleur, puis de fermer les yeux et faire un petit somme. Mais il continua d'avancer. L'entrée du deuxième tombeau offrait des motifs baroques gravés dans la pierre, et cela rappela à Durée la basilique antique qu'il avait découverte au fond de la faille, avec son autel géant et son crucifix énorme que vénéraient les Bicura retardés. Mais c'était l'immortalité obscène du cruciforme que ces sauvages adoraient, et non la vraie résurrection promise par la croix. Quelle différence, se demanda-t-il en secouant la tête, comme s'il espérait, par ce mouvement, chasser le nuage de cynisme qui enrobait chacune de ses pensées. Le sentier grimpait à hauteur du troisième caveau, le plus petit et le moins impressionnant des trois. Il y avait de la lumière à l'intérieur. Il s'arrêta, prit une profonde inspiration et regarda vers le bas de la vallée. Le sphinx était parfaitement visible à moins d'un kilomètre de là, mais il ne parvint pas à distinguer Sol au milieu des ombres. Un instant, il se demanda si ce n'était pas dans le troisième tombeau qu'il s'était abrité la veille. L'un d'eux aurait pu oublier une lampe. Ce n'était pas ici, il en était certain. Personne n'était entré dans ce tombeau depuis 3 jours, lorsqu'ils avaient fouillé toute la vallée à la recherche de Cassade. Le bon sens lui commandait d'ignorer cette lumière et de retourner aux côtés de Sol et de sa fille pour continuer de monter la garde. Mais le Gritch est toujours apparu aux autres quand ils étaient seuls. Pourquoi refuser son invitation? Il sentit quelque chose de mouillé sur sa joue et se rendit compte qu'il pleurait sans bruit, machinalement. Il essuya hâtivement ses larmes du dos de la main, puis redressa la tête, les poings serrés. Mon intellect était mon plus grand objet de vanité. J'étais le jésuite intellectuel, confortablement installé dans la tradition de Téliard et de Brassard. Même la théologie avancée que j'essayais d'imposer à l'Église, à mes séminaristes et aux rares fidèles qui m'écoutaient encore, mettait l'accent sur l'esprit et sur ce merveilleux point oméga de la conscience. Dieu en tant qu'algorithme subtil. Mais certaines choses sont au-delà de l'intellect, Paul. Le père Durée pénétra dans le troisième caveau. Sol se réveilla en sursaut, certain que quelqu'un était en train de ramper vers lui. Il bondit sur ses pieds et regarda autour de lui. Rachel gazouillait paisiblement. Elle avait dû se réveiller en même temps que son père. Brown Lamia était toujours inanimé à l'endroit où il l'avait laissé. Tous les voyants étaient au vert, mais le témoin d'activité cérébrale était entièrement rouge. Il avait dormi au moins 1 heure. Les ombres avaient envahi la vallée, et seul le sommet du sphinx était encore éclairé par le soleil qui perçait la couverture nuageuse. Plusieurs rayons de lumière oblique pénétraient à l'entrée de la vallée, illuminant la paroi rocheuse opposée. Le vent était en train de se lever. Cependant, il n'y avait pas le moindre mouvement dans la vallée. Il prit Rachel, qui pleurait, dans ses bras. Il la berça doucement tout en descendant les premières marches du sphinx. De temps à autre, il se retournait pour regarder derrière lui ou en direction des autres tombeaux.
« Paul !»
Sa voix se répercuta dans toute la vallée. Le vent souleva un peu de sable derrière le tombeau de Jade, mais rien d'autre ne bougeait. Il avait pourtant l'impression très nette que quelque chose se rapprochait de lui et qu'il était observé. Rachel se mit à hurler et à gigoter. Son cri aigu était le vagissement d'un nouveau-né. Sol consulta son père Soc. D'ici 1 heure, elle aurait exactement 1 jour. Il scruta le ciel à la recherche du vaisseau du consul, émit un juron entre ses dents et retourna à l'entrée du sphinx pour changer les couches du bébé, voir si Brown allait bien, prendre un biberon dans son sac et se munir de sa cape. La chaleur se dissipait rapidement dès que le soleil cessait de briller. Il restait environ 1 demi-heure de crépuscule. Il prit rapidement le chemin de l'entrée de la vallée en criant plusieurs fois le nom de Durée. Chaque fois qu'il passait devant un tombeau, il regardait à l'intérieur sans y entrer. Les murs du tombeau de Jade, où Hoyt avait été tué, émettaient déjà un halo d'un vert laiteux. L'obélisque noir projetait son ombre jusque sur les hauteurs de la falaise du sud-est. Le monolithe de cristal avait encore son sommet éclairé par les dernières lueurs du couchant qui disparurent sous les yeux de Sol tandis que le soleil se couchait quelque part derrière la cité des poètes. Dans le soudain silence glacé du soir, après avoir dépassé les trois caveaux et crié à trois reprises le nom du prêtre, Sol eut l'impression que l'air moite qui soufflait sur son visage était l'haleine d'une bouche géante qui se rapprochait de lui. Aucune réponse ne lui parvint. Il se tenait maintenant dans les toutes dernières lueurs du crépuscule, au détour de la vallée qui menait au palais du Gritch, hérissé de lames et d'arcs boutants, sombre et sinistre dans les ténèbres grandissantes. Il essayait, dans le noir, de donner un sens au prolongement, piquant et arête qui garnissait le monument, et cria plusieurs fois en direction de l'intérieur. Mais seul l'écho lui répondit. Et Rachel se remit à vagir. Frissonnant, éprouvant une sensation de froid piquant à la base de la nuque, se retournant sans cesse pour surprendre la présence invisible qui l'épiait, mais ne voyant que des ombres de plus en plus épaisses que les étoiles derrière les nuages ne parvenaient pas à percer, Sol reprit d'un pas rapide le chemin du sphinx. Arrivé devant le tombeau de Jade, il se mit à courir tandis que le vent de la nuit se levait avec un cri d'enfant déchirant.
« Merde !»
s'exclama-t-il en arrivant au sommet des marches du sphinx. Brand Lamia avait disparu. Il n'y avait plus aucune trace d'elle, ni du cordon ombilical argenté. Jurant entre ses dents, serrant très fort Rachel contre lui, il chercha la lampe dans son sac. 10 mètres plus loin, dans le couloir central, il retrouva la couverture dans laquelle Brown avait été enveloppé. Plus loin, il n'y avait rien d'autre. Les nombreux corridors secondaires faisaient des méandres, tantôt plus larges, tantôt plus étroits, et le plafond s'abaissait au point qu'il dut bientôt ramper, le bébé dans son bras droit contre sa joue. Il avait horreur de se retrouver dans les profondeurs de ce tombeau. Son cœur battait si fort qu'il s'attendait presque à un infarctus d'un moment à l'autre. La dernière galerie se rétrécissait en cul-de-sac. Là où le câble de métal s'était enfoncé dans la roche, il n'y avait plus rien que de la pierre lisse. Tenant sa lampe entre ses dents, il frappa plusieurs fois la paroi rocheuse du talon de la main, poussa de toutes ses forces les dalles de la taille d'une maison, comme s'il espérait déclencher l'ouverture d'un passage secret, tout cela sans résultat. Serrant Rachel contre lui, il prit le chemin du retour, se trompant plusieurs fois aux embranchements, certain d'être perdu, le cœur battant à se rompre. Puis il reconnut l'une des galeries par lesquelles il était passé et trouva rapidement la sortie. Il porta son enfant au pied des marches et commença à s'éloigner du sphinx. Dans la vallée, il s'assit sur un rocher pour récupérer son souffle. La joue de Rachel reposait contre son cou, et elle était parfaitement silencieuse. Seuls ses petits doigts remuaient, agrippant faiblement la barbe de Sol. Le vent se leva derrière eux sur les terres désolées. Les nuages s'écartèrent, puis se refermèrent de plus belle, occultant les étoiles, de sorte que la seule lumière provenait maintenant du faible éclat interne des tombeaux du temps. Sol avait peur que les cognements redoublés de son cœur ne fassent peur au bébé. Mais Rachel continuait de se blottir contre lui, et le contact de son petit corps chaud le rassurait. « Bon sang !» murmura-t-il dans sa barbe. Il s'était pris d'affection pour Brand Lamia. Il s'était pris d'affection pour tous les pèlerins. Et ils avaient tous disparu, un par un. Sa formation d'universitaire l'avait conditionné à rechercher une configuration dans chaque chaîne d'événements, un grain particulier dans chaque pierre mêlée par l'expérience. Mais il ne voyait aucune configuration spéciale dans les événements d'Hyperion. Il n'y trouvait que le désordre et la mort. Sans cesser de bercer son enfant, il se tourna vers le désert, envisageant de quitter cet endroit au plus vite, de marcher jusqu'à la cité morte ou jusqu'à la forteresse de Chronos, pour essayer de gagner le littoral du nord-ouest ou encore celui du sud-est, là où la chaîne bridée faisait intersection avec la mer. Il leva un doigt tremblant vers son visage et se frotta la joue. Il ne pouvait rien espérer de tout cela. Quitter la vallée n'avait pas sauvé Martin Silenus. La présence du Gritch avait été signalée au sud de la chaîne bridée, jusqu'à Endymion et jusqu'aux autres villes du sud. Même si le monstre les épargnait, Rachel et lui, la soif et la faim auraient vite raison d'eux. Sol aurait pu survivre à la rigueur en se nourrissant de racines et de petits animaux, mais les réserves de lait pour Rachel étaient trop limitées. Braun n'en avait pas apporté suffisamment de la forteresse. Il se souvint brusquement, alors, que les réserves de lait n'avaient aucune importance. Dans moins d'un jour, je serai tout seul. Il réprima un gémissement de douleur à cette pensée. Sa détermination à sauver son enfant lui avait fait traverser un quart de siècle et plus de 200 années-lumière. Sa résolution de redonner à Rachel la vie et la santé qu'elle avait perdue représentait une force presque palpable, une énergie farouche que Sarai et lui avaient eue en commun et qu'ils avaient entretenue de la même manière que les prêtres d'un temple entretiennent une flamme sacrée. Mais par Dieu, non. Il y avait un sens aux choses, un soubassement moral à cette plateforme d'événements apparemment aléatoires, et Sol Weintraub était prêt à jouer sa vie et celle de sa fille sur cette certitude. Il se leva, redescendit lentement le sentier qui menait au sphinx, grimpa l'escalier, prit une cape isotherme et des couvertures, et confectionna un nid douillet pour deux sur la plus haute marche tandis que les vents d'Hyperion mugissaient et que les tombeaux du temps émettaient une lumière plus forte que jamais. Rachel était contre son ventre et son torse, la joue sur son épaule, ses petites mains s'ouvrant et se refermant tandis qu'elle lâchait sa prise sur le monde pour entrer dans l'univers des rêves d'enfant. Il écouta sa respiration douce lorsqu'elle sombra dans un sommeil profond et entendit le bruit des petites bulles de salive qui se formaient sur sa bouche. Au bout d'un moment, il lâcha, lui aussi, sa prise sur le monde et la rejoignit dans le sommeil.